embêté à créer quelque chose d'animal, alors qu'il avait quelque chose déjà en lui, tous ces milliers d'anges.
Pas en lui, il les crée en dehors de lui.
Ouais, mais ils ont quand même pareil une pensée unique.
Oui. Oui, mais alors vous trouvez que c'est. Il n'aurait pas dû créer les animaux ?
Non, c'est pas ça, c'est que justement, comme vous avez dit, il a pris un risque, justement, de ne pas avoir l'amour qui.
Oui, mais c'est un risque qu'il a pris aussi avec les anges, puisqu'il y a un tiers des anges, d'après la tradition, qui l'ont refusé. Ouais. Alors qu'ils sont bien plus intelligents. Donc leur révolte est beaucoup plus calme. Hein. C'est tel que je suis, je vais envisager d'être coupé de Dieu. Et Dieu aurait pu les anéantir. Vous avez actuellement des théologiens, et ça séduit même des personnes assez élevées, n'est-ce pas, qui pensent que quand un être choisit le mal, il est anéanti. Il est désintégré. Il n'existe plus. Ben non, c'est contraire à la révélation biblique. Nous continuons d'exister. Et vous allez me dire, mais alors à quoi bon quand une âme se damne, c'est-à-dire va en enfer, c'est-à-dire à la haine de Dieu. Je vous ai dit, il n'y a pas de Schtroumpf-Grognon dans la vie éternelle. Là, je vous déteste tous. Et je dis, oui, mais non, Dieu est amour. Et il n'y a pas d'hypnose, il n'y a pas de lobotomie après la mort. Allez, tu m'aimes. Hein. Voilà. Cette capacité que nous avons, Dieu nous la laisse. Et parce que c'est notre conscience et c'est notre liberté. Et quand cette conscience et cette liberté aiment, elle est extraordinaire. Donc pour tous ceux qui aiment, Dieu assume ceux qui haïssent. Ça par contre, c'est une des choses les plus difficiles à admettre parce que nous sommes perfectionnistes. Nous ne voudrions pas que Dieu ait pris le risque que des êtres se révoltent contre lui. Et on pense d'ailleurs que c'est contraire à sa toute-puissance. Alors qu'au contraire, c'est une très grande noblesse de la part de Dieu d'avoir créé la liberté. Je pense. Alors, quand vous voyez les guerres, quand vous voyez l'histoire humaine, je vous déconseille de lire la Bible sans un commentaire, parce que c'est toute une série d'épreuves de la vie humaine, du peuple hébreu qui se bat pour garder la foi, les uns la perdent et tout, c'est impressionnant, voyez, de prophètes, de miracles qui parsèment toute l'histoire du peuple hébreu. Avec des prophètes il n'y aura que deux résurrections de mort dans l'Ancien Testament. Le prophète Élie et le prophète Élisée, son serviteur, qui chacun ressusciteront un petit enfant. Mais sinon, vous aurez des miracles de présence de Dieu, de locution divine, qui parsèment tout l'Ancien Testament. Et toute cette promesse d'un sauveur, la venue d'un sauveur, d'un homme providentiel, d'un chef, d'un roi, mais d'un bon roi, voyez, d'un bon chef. Même dans la République, même dans la démocratie, nous ne pouvons pas nous empêcher de choisir quelqu'un. Vous avez, Theresa May, vous avez, Madame Merkel, vous avez Monsieur Macron, vous avez De Gaulle, vous avez Mitterrand, vous avez Mandela, vous avez Roosevelt, vous avez Obama, vous avez Trump. Tout le monde, à un moment donné, se dit, il nous faut quelqu'un pour nous mener. On n'arrive pas à être mené par un collectif, vous voyez. Et c'est, on est en 2017, hein, on n'a toujours pas eu de gouvernement collégial. Et on n'y arrivera jamais parce qu'on veut qu'il y ait quelqu'un qui soit responsable. Eh bien, Dieu, lui, qui nous a créés, qui sait comment on fonctionne, nous dit, vous aurez un chef. Et ce chef, quand il vient, ben, ce n'est pas un roi avec une puissance militaire avec une puissance politique. Et c'est déconcertant, et en même temps, c'est extrêmement fin. C'est-à-dire que le vrai roi, c'est celui envers qui nous allons rendre compte de notre vie personnelle et morale. Et ça, tous les dictateurs et tous les pouvoirs politiques l'ont souhaité. C'est maîtriser vos sentiments et votre vie intérieure, votre vie personnelle. Ouvrir votre courrier, ouvrir votre cœur, ouvrir vos pensées et les influencer. Tout le problème actuel des réseaux sociaux, de lire les mails, de savoir où vous êtes, les personnes qui disent mais avec tel, même les compteurs d'électricité, il faut parler de compteurs, on va savoir si vous êtes là, si vous n'êtes pas là. C'est Big Brother comme il n'aurait jamais imaginé, puisque on sait quand vous entrez dans votre appartement, quand vous en partez, quelle consommation vous avez. Enfin, c'est tout est connecté et c'est pour une meilleure gestion, c'est vrai, mais toute votre vie intime va être connue. Et toutes les personnes qui racontent toute leur vie en SMS, en chat et tout, mais si on veut savoir qui vous êtes, eh bien n'importe quel service d'État pourra connaître votre vie intime. Alors, contre ça, on dit, mais si on est honnête, eh ben, qu'il le sache, on n'a rien à cacher. Mais voyez-vous, nous savons bien que même si on se trouve un jour dans un manque d'intimité impressionnant par rapport à l'État ou autre, ben, on aura toujours notre jardin secret. Ils ne pourront pas rentrer dans notre tête complètement. Même les régimes les plus intrusifs, comme le maoïsme et le stalinisme, n'ont pas pu rentrer dans la tête de tout le monde. Et par contre, ce qui énerve justement les dictatures qui sont anti-chrétiennes, Hitler a persécuté la religion chrétienne, Staline a persécuté la religion chrétienne, Mao a persécuté la religion chrétienne, les Khmers ont persécuté la religion chrétienne, parce que, si vous voulez, il n'y a que la religion qui soit la maîtresse de votre conscience. Et en plus, ce qu'on va reprocher à l'Église catholique plus particulièrement, c'est la confession. Et c'est ce qui nous coûte aussi. Voyez, lorsque vous avez une crise religieuse catholique, eh bien, ça va être une défiance vis-à-vis de la confession. Parce que la confession, si vous voulez, alors que l'Église nous demande de nous confesser dès que nous en ressentons le besoin par quelque chose qui pèse sur notre conscience, c'est pour ça qu'aussi il faut éclairer sa conscience, mais c'est impressionnant. C'est-à-dire que vous allez voir un serviteur de Dieu qui est tenu au secret absolu, qui perdrait sa mission s'il parlait de ce qu'il a entendu en confession. C'est quand même extrêmement strict. Mais vous allez dire à un inconnu le fond de votre pensée, ce que vous avez fait, et quand bien même vous essayez de cacher plus ou moins ou maquiller, c'est quand même quelque chose qui est fort. Eh bien, tous les dictateurs ont envié la confession. Tous les dictateurs ont envié un prêtre de 75 ans qui connaît les âmes comme sa poche. Et qui a eu l'habitude de pardonner, qui a eu l'habitude de pousser vers le bien. Alors bien sûr, il y a eu des jansénistes, bien sûr, il y a eu des puritains, bien sûr, il y a des mauvais prêtres, mais la plupart des prêtres, façonnés par la bonté et la bienveillance, ne vont pas abuser de la confession, mais au contraire, vont offrir une rencontre intime avec Dieu. Et si c'est trop brûlant ou trop humiliant, de toute façon, la religion chrétienne nous dit que nous pouvons aimer Dieu et que Dieu nous aime avec une très grande intimité. Et que, quels que soient les mauvais exemples de chrétiens méchants ou hypocrites, ou comment dire, ou très laxistes et faux aussi, hein, de chaque côté, eh bien, le cœur même de la révélation du peuple hébreu, c'est que Dieu poursuit la nature humaine pour lui dire qu'il l'aime. Voyez, vous avez le cantique des cantiques dans la Bible qui est impressionnant. Parce que vous vous dites, c'est une déclaration d'amour entre un homme et une femme, un époux et une épouse. Mais enfin, pourquoi c'est dans la Bible? C'est dans la Bible parce que c'est Dieu qui dit qu'il aime l'âme humaine. L'époux, c'est Dieu. L'épouse, c'est la nature humaine. Et dans un livre entier, hein, de la Bible. Quand Jésus vient, Saint Jean-Baptiste, qui est le dernier prophète de l'Ancien Testament, dit qu'il est l'ami de l'époux. Et quand il entend la voix de l'époux, il se réjouit. Et il s'efface pour que les noces commencent. Quand Saint Jean termine la Bible par le livre de l'Apocalypse, nous on est là à dire ah, mais l'Apocalypse c'est les punitions divines de la fin des temps. Oui, mais enfin, pour arriver à l'Apocalypse, il va falloir que, si vous voulez, on ait sur Terre une dictature hypocrite absolument épouvantable avec une cruauté inimaginable qui va mettre les êtres humains dans, comment dire, dans une souffrance toute particulière. À côté, Big Brother ou Brésil, je ne sais pas si vous avez vu le film Brésil, ça vaut la peine de le voir, bon, il est un peu difficile à comprendre, mais ce qui est très intéressant dans Brésil, c'est la manière justement de l'état totalitaire, hein, qui vous apporte le bonheur. Mais à cause de ce bonheur, vous êtes totalement, vous n'avez plus aucune intimité, vous n'avez plus aucune vie personnelle. C'est comme en Chine, vous voyez, c'est un état totalitaire. On interdisait aux couples d'avoir plus d'un enfant. On a des relations commerciales, on a des touristes chinois, tout ça. Mais on ne se rend pas compte qu'eux ont été brisés pendant des décennies d'enfants uniques. Et que bon, ils sont encore un peu automatisés à dire « je dois obéir à l'État, c'est pour le bien de l'État ». Et là, en ce moment, la Chine vit un crash démographique absolument épouvantable. Parce que c'était tellement contre nature, actuellement, ils vont avoir un renversement économique, puisqu'ils ont ils vont avoir toute une série de vieillards avec personne pour s'en occuper. Donc, à mon avis, la seule solution, ce sera de les piquer. Hein, ce sera l'euthanasie générale, comme ça, on passera à 500 millions de Chinois, et tout sera bien. Hein, on fera passer de l'enfant unique au massacre des vieux, et on pourra avoir une balance à la fin. Très intelligente et bien réalisée. Mais bon, entre-temps, c'est dur à vivre. Hein. Et nous, qui vivons dans une certaine liberté, on se dit, ah oui, mais c'est quand même mieux. Quoi. Parce qu'imaginez 5 milliards de Chinois. Oui, mais enfin, il y a suffisamment de matière. La matière qu'utilisera, ou qu'aurait utilisé, ou qu'utiliseront peut-être 5 milliards de Chinois dans le futur, elle est déjà sur Terre. Donc ça ne va pas peser sur le poids de la Terre, si vous voulez. Les corps humains sont pris de ce qui existe déjà. Hein. C'est pas de la matière créée. Et il y a de l'espace. En tout cas, si vous voulez, dans cet apocalypse, Dieu nous fait une révélation qui devrait calmer le pasteur Malthus et ceux qui estiment qu'on devrait être en décroissance et avoir revenir à 500 millions d'habitants. Il y a une secte américaine qui dit le bonheur, c'est 500 millions d'êtres humains. La barre, 500 millions sur Terre. Et là, on est tous heureux, quoi. C'est l'âge d'or. Mais je suppose que eux. Comment ?
Ils sont combien dans la secte ?
C'est une loge maçonnique de. Comment dire ? De Géorgie. De l'État de Géorgie, aux États-Unis. Qui a fait un monument en disant avec 500 millions d'hommes, c'est parfait. Eh bien, Dieu nous révèle dans l'Apocalypse qu'avant que nous soyons trop nombreux sur Terre, voyez-vous, l'histoire humaine et la vie terrestre s'arrêtera par la fin d'une structure de péché universelle, avec à sa tête l'antéchrist. On n'aurait pas atteint par vie honnête et famille paisible, 200 milliards d'habitants ne pouvant plus manger sur terre et Dieu arrêtant l'histoire humaine pour passer à la vie spirituelle après la résurrection des corps. Non. Nous n'y attendons, par une vie honnête et paisible, nous n'atteindrons pas un moment critique de nourriture sur terre. Et comment je le sais? Eh bien, par révélation. La Bible nous dit que c'est par le péché que la vie terrestre va s'arrêter. Par le feu. Alors, ça sera peut-être justement des envois de bombes nucléaires dans tous les sens. Et là, voilà. Mais c'est amusant qu'il y a 2000 ans, Saint Jean disait que ça serait par le feu que la vie terrestre s'arrêterait. Et que, à ce moment-là, tout le monde étant mort, tout le monde étant mort, pas de survivants sur des bateaux ou dans des cavernes, eh bien, à ce moment-là, résurrection des morts. Et vie éternelle. C'est-à-dire que Dieu veut, à un moment donné, que la vie humaine s'arrête dans ses épreuves et qu'il y ait une récompense générale et que ce bonheur ne soit plus susceptible d'être perdu. Et pour toujours. Et quand on demande à Jésus, mais est-ce que après le renouvellement de la terre, il y aura à nouveau des naissances, il y aura des mariages et des naissances, il dit non. Vous ne vous marierez plus, vous serez comme les anges. Alors, vous voyez, moi je suis riche d'histoires de saints et de saintes. Vous avez Saint Jean Bosco qui s'est occupé des pauvres des faubourgs de Turin pendant des années et des années. Quand il célébrait la messe, à certains moments, son visage devenait lumineux et il partait en l'air, quoi, il faisait une lévitation. On était dans les années 1880. Il a ressuscité un petit enfant mort. Et lors d'un... Comment dire, il y avait un adolescent qui était dans les pensionnats, orphelinats et pensionnats, quelques semaines après sa mort, et il lui est apparu dans une boule lumineuse qui a traversé le dortoir. Et donc vous avez une cinquantaine d'enfants qui ont vu une boule lumineuse traverser tout le dortoir, rentrer dans les appartements de Saint-Jean Bosco. Et Saint-Jean Bosco a vu Dominique Savio, qui était mort quelques semaines avant. Et Dominique lui a dit merci. Et il était accompagné d'autres âmes, d'enfants qui étaient morts et qui étaient au ciel, dans la vie éternelle, et qui ont remercié Saint-Jean Bosco. Vous voyez, si vous voulez, la religion chrétienne ne peut pas faire ne peut pas séparer des miracles. C'est la raison pour laquelle, encore maintenant, voyez-vous, quels que soient les réseaux sociaux, le journalisme et autres, le Vatican va persister à demander à Dieu un miracle pour la canonisation d'un saint, pour la béatification, pour la canonisation. Voyez. Alors, quand la sainteté est évidente, le pape peut ne pas constater de miracle, mais lorsqu'on utilise la coutume habituelle, on demande à Dieu deux miracles. Avant, on en demandait quatre, maintenant on n'en demande plus que deux, parce que les vérifications scientifiques sont très sévères. Et donc, pour Mère Teresa, c'était une enfant, je ne sais plus, il y avait une tumeur qui a disparu. L'Église s'étant adaptée à la modernité, c'est-à-dire qu'on veut un dossier médical avant et un dossier médical après, avec disparition de la tumeur, désintégration des cellules cancéreuses. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut détruire de la matière ou créer des tissus sains. Eh bien, le Christ, lui, donc, pendant 30 ans, il va vivre une vie tranquille. Il ne va pas faire de miracle. Le seul miracle qu'il y a à sa naissance, c'est que vous avez des esprits angéliques qui prennent une apparence de corps humain, lumineux, et qui arrivent auprès de bergers dans la plaine de Bethléem, qui sont là avec leurs troupeaux, et qui leur dit, vous savez, tout ce qui a été annoncé par les prophètes, ça s'est accompli cette nuit. Le fils de David est né. Parce que dans les prophéties, à un moment donné, il disait, il ne sera pas de la tribu sacerdotale de Lévi, il sera de la tribu de David, la tribu de Juda. Pas Judas Iscariote, Juda, le fils d'Israël. Un des 12 fils d'Israël. Et alors, qu'est-ce que disent les anges? L'ange dit, vous le reconnaîtrez, c'est un bébé en mailloté. Donc ils sont là, et ils arrivent à une des cavernes, une des grottes, et ils voient un couple pauvre et un bébé en mailloté. Donc ils sont là, ils disent, c'est notre sauveur. Normalement, il aurait dû naître dans le palais de Jérusalem, mais il naît dans une grotte à Bethléem. Mais il y avait une prophétie qui disait que le Messie naîtrait à Bethléem. Mais de là à naître dans une grotte, dans une, et mettre dans la mangeoire des animaux, c'était, il y avait un pas. Et ce qui fait que, si vous voulez, cette vie, pendant 30 ans, c'est le souvenir de Marie, qui est une jeune femme de 16 ans, qui à l'espérance d'Israël et qui est choisi par Dieu. Et vous avez un homme d'une, la tradition nous dit qu'il avait une trentaine d'années. Certains disent qu'il était veuf, hein, Saint Joseph. Il y a une tradition orientale chrétienne qui, il y a vraiment deux traditions où il était veuf, où il n'avait pas trouvé à se marier. Et c'était le rabbin, enfin le religieux de Nazareth qui les a mis en lien parce qu'ils savaient qu'ils étaient tous les deux très pieux. Et Marie ayant fait un vœu de chasteté. Et Saint Joseph étant appelé à le respecter. C'est pour ça que quand il a vu Marie enceinte, il était très troublé et il ne se comprenait pas. Et comme c'était un homme juste, hein, dit l'Écriture, Il avait décidé de rompre les fiançailles et de la répudier. Hein, dans la première étape du mariage à l'époque, c'était la première étape du mariage, les fiançailles. C'était pas libre, hein, c'était plus fort. Et discrètement, en quittant le village avec elle et en se séparant d'elle. Sans scandale. Et Dieu lui dit, alors. C'est Gabriel, l'archange Gabriel, qui annonce à Marie qu'elle sera la mère du Messie. Et en songe, alors que Joseph dort, c'est pour ça qu'on... C'est toujours en songe, c'est pendant qu'il dort que Dieu lui parle à Saint-Joseph. Et il lui dit, prends l'enfant et sa mère, car c'est le Messie, c'est le fils de David. Et lui, si vous voulez, la preuve de son songe, ça sera les paysans, les bergers qui viennent et qui se mettent à genoux devant leur sauveur. Et ensuite, ces petits rois de petites villes d'Orient, qui n'étaient pas, dont deux au moins sur trois n'étaient pas sémites, un cananéen, qui venait donc d'Afrique, un sémite probablement, et peut-être un Perse qui viennent et qui étaient des mages, c'est-à-dire des personnes qui étudiaient, parce que ils étaient riches, ils étaient les maîtres de leur petite ville et ils avaient les loisirs d'étudier et ces trois hommes étaient profondément versés dans la connaissance des sciences humaines, de l'histoire, de l'astronomie. Et ils avaient étudié les écritures des Juifs. Et ils avaient discerné que c'était la vraie religion. Alors qu'ils n'étaient pas juifs. Et donc comme dans... dans la Sainte Écriture, il est dit qu'il y aura, que le Christ sera comme une étoile, un astre dans le ciel. Eh bien, lorsqu'il y a eu l'apparition d'une étoile particulière à la naissance du Christ, ils l'ont suivi. Et quand ils sont arrivés à Bethléem, ils ont dit, nous voulons accomplir les écritures de votre religion. Et là, le roi a demandé au prêtre, qu'est-ce que je dois répondre? Et eux, ils disent, ben, c'est à Bethléem qu'il doit naître. Et donc, ils vont à Bethléem. Et là, ils entrent dans, comment dire, c'est plusieurs semaines, hein, donc on les représente dans la crèche, mais c'est un peu plus tard. Ils trouvent le couple, ils offrent l'or, l'encens et la myrrhe, hein, nous dit saint Matthieu, l'or du roi, l'encens de Dieu et la myrrhe, c'est-à-dire les parfums dont on oignait les morts, voyez, pour éviter l'odeur de la décomposition. Donc Dieu tout-puissant et homme mortel. C'est impressionnant, hein, c'est trois cadeaux, l'or, l'encens et la myrrhe. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit qu'il y a trois rois mages, parce qu'il y a trois présents. Hein, puisqu'on dit les rois mages, hein, les mages. Et donc, et en songe, Dieu leur dit de ne pas revenir vers Hérode, et Hérode fait tuer tous les bébés de Bethléem. Parce qu'il a peur de la concurrence civile, politique du Messie. Et bien, jusqu'à l'âge de 12 ans, le Christ va rien faire de miraculeux. 12 ans, c'est la maturité religieuse dans le peuple juif. Ils vont à Jérusalem. Et là, il leur fausse compagnie. Après sa bar mitzvah, n'est-ce pas, sa majorité religieuse. Et dans la caravane des hommes qui repart vers Nazareth, Joseph se dit que peut-être que l'enfant est resté avec les femmes alors que maintenant c'est un homme. Et Marie pense que Jésus est avec les hommes maintenant qu'il est un homme, il a 12 ans. Eh bien, le soir même, il se voit à l'arrêt, et l'enfant Jésus est parti, et donc ils repartent à Jérusalem, et ils sont dans l'angoisse pendant 3 jours, hein, ces 3 jours qui sont aussi le symbole de l'épreuve de la crucifixion et de la résurrection. Et au bout de 3 jours, ils entrent dans le temple, ils cherchent dans le temple, et dans une des salles du temple, ils voient l'enfant Jésus à 12 ans, qui pose des questions aux prêtres et aux docteurs de la loi, qui ne savent pas répondre, et il fait les réponses. C'est-à-dire que cet enfant de 12 ans connaît la Sainte Écriture comme s'il l'avait écrite. Et vous avez des vieux prêtres, des vieux docteurs de la loi qui sont là, qui tournent les rouleaux, qui disent « Mais comment il sait ça ?» Eh bien Marie, lui, elle dit, quand elle revoit son fils, elle dit « Pourquoi tu nous as fait ça? Ton père et moi, hein, ?» Parce que Joseph est pleinement père adoptif, père adoptif. Hein. On parlera de l'adoption si vous avez l'épreuve de la stérilité. Hein, et donc l'Église vous demande de ne pas faire de PMA. Mais si vous voulez dépasser, avoir des enfants par l'adoption, c'est très noble. « Ton père et moi ?» Nous étions dans l'inquiétude. Et Jésus leur dit, pourquoi êtes-vous inquiet? Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? Et donc c'est vraiment un moment fort dans la vie de Jésus, où il rappelle ce qu'ils savent déjà, hein, mais ça faisait 12 ans qu'ils faisaient pas de miracle. C'est le premier miracle de Jésus, c'est-à-dire c'est un miracle intellectuel, il connaît toute la Bible. Alors bien sûr, ceux qui sont rationalistes vont dire ben « Non, il posait des questions, il avait lu la Bible. Bon, » voilà. Nous croyons que Jésus est Dieu. Et donc, son âme humaine est plongée dans la science divine et il connaît toutes choses. Eh bien, ensuite, il repart à Nazareth avec son, avec Marie et Joseph. Et jusqu'à 30 ans, il ne fera pas de miracle non plus. Donc il faut que vous imaginez Jésus ne faisant quasiment aucun miracle pendant 30 ans. Et à 30 ans, on estime que Joseph vient de mourir. Donc la figure paternelle terrestre vient de partir, par respect pour son père adoptif, et maintenant il parle de son père. Et Saint Jean-Baptiste, lui, qui était né par la parole de Gabriel à son père Zacharie et à sa mère Élisabeth, 30 ans plus tôt, eh bien, l'ange Gabriel avait dit à Marie, une preuve que tu seras la mère du Messie, c'est que ta cousine, mais une cousine par succession de générations, va enfanter alors qu'elle a 80 ans. Zacharie, qui était au temple de Jérusalem, qui était prêtre, qui avait épousé une fille de Judas, pour le coup, Élisabeth, il voit un ange dans le temple qui lui dit « Tu vas avoir un enfant ». Et lui, il a 80 ans, sa femme, elle en a 80, donc il dit « Pourquoi me mets-tu à l'épreuve comme ça ?» Et là, Gabriel lui dit « Je suis un des sept esprits en permanence devant le trône de Dieu, et tu remets en cause ma parole, donc tu seras muet. » Donc ça, c'est un des derniers traits de l'Ancien Testament, juste avant le Christ. Et tu seras muet jusqu'à la naissance de l'enfant. Et là, Zacharie sort du temple, muet. Et les gens pieux qui étaient là pour le sacrifice du soir, pour l'offrande de l'encens en semaine, hein, ils voient le prêtre. Alors il essaye de dire. Et donc, 9 mois plus tard, à la naissance de Jean-Baptiste, 6 mois plus tard, Marie va avoir le message de Gabriel en disant « Élisabeth, ta cousine, est enceinte. » Elle va auprès d'Élisabeth et elle trouve sa cousine âgée enceinte. Donc elle est toute heureuse. Et Élisabeth, quand elle voit Marie arriver, elle a dit « Elle sent l'enfant de 6 mois bouger dans son ventre. Elle dit « À peine ta voix m'a-t-elle touchée que mon enfant s'est réjoui. Que me vaut l'honneur d'avoir la mère de mon Seigneur qui me rend visite. » C'est-à-dire qu'Élisabeth savait que Marie était la mère du Messie. Et vous voyez, et tout cela est gardé dans l'humilité de saints juifs, de saints hébreux, pendant 30 ans. C'est assez impressionnant. Eh bien, 30 ans plus tard, alors que le Christ va vers le Jourdain, et Saint Jean-Baptiste, lui, plonge les personnes dans l'eau, en disant, vous allez revivre. Mourrez à vos mauvaises pensées, à vos mauvaises actions. Je vous noie dans l'eau et vous devez revivre. C'est pas seulement se laver, c'est être plongé dans l'eau, mourir noyé et ressortir vivant. C'est ça le baptême. C'est pas uniquement le signe de l'eau qui coule et qui lave, hein. C'est l'eau qui submerge. Le baptême lui-même, hein, c'est l'immersion normalement. Dire en Orient il y a l'immersion, mais pas en Occident, mais pour des raisons de pratique. Si on baptise, on n'a pas le chauffage il y a 200 ans et on baptise un enfant par immersion au mois de novembre, ben voilà, on a intérêt à être très précautionneux.